Rim Batal, libre penseuse et marocaine.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Il y a de la poétesse inclusive dans l'air et le studio en sol majeur. Inclusive, c'est-à-dire n'omettant aucune de ses robes à pois ou sans manches. L'intello, la guerrière, la maman, la populo, la parisienne, la marocaine. Avec Rim Batal, on n'est pas dans le prêt-à-penser, vite enfilé, vite défilé, non, non. Plutôt dans l'hyperactivité cérébrale et langagière. Ayant pour sujet poétique, elle-même, féministe sans doute, mais très contemporaine, d'ailleurs grande prêtresse du bordel de la poésie, expérience immersive débarquée de New York et qui contamine Paris. Entre ce grand bordel et la petite question de la virginité, abordée dans son premier roman « Je me regarderai dans les yeux », il y a un certificat de liberté qu'elle se délivre. Délivrée de livre en livre, avec Rim Batal, il y a un désir brûlant de vivre et de dire.
Les catins ne sont pas ici. Ou alors mariés avec enfant. Ou alors, avec enfant. Les catins ici avec enfant et mariés ou pas sont ici, avec ou sans. Sont si peu catins ici qu'on s'étonne de les voir avec enfant. Sont ici et leur con est là pour pas grand chose.
Il n'y a pas besoin vraiment de parler arabe sur RFI pour sentir que c'est contemporain. C'est le duo Aïta Mon Amour pour accueillir en sol majeur notre invité. Bonjour et malhaba Rim Batal.
Bonjour Yasmine Chouaki.
Pourquoi ce duo marocain ?
Alors, la chanteuse est marocaine et le musicien, donc Khalil Epi, est tunisien. Et ça me touche beaucoup parce que donc Widad Mjama, qui est la chanteuse, est allée collecter des chansons du répertoire populaire classique marocain qui s'appelle L'Aïta. Et avec Khalil, ils en ont fait un album splendide avec de la musique très contemporaine, très rock, avec des basses qui prennent vraiment au cœur et aux tripes.
Entre hier et aujourd'hui.
Exactement.
Les catins ne sont pas ici, ou alors mariés avec enfants. On vient d'entendre un soupçon de votre poésie. Alors qu'aujourd'hui, vous accostez sur les rives du roman où il est question de féminité, de virginité et peut-être de politique.
P.
P comme portrait chinois.
Si vous deviez signer votre propre portrait chinois, Rim Batal, ce serait avec quels mots, avec quels adjectifs?
Alors, avec humour, joie, je dirais profondeur, des profondeurs d'où on ne peut pas se noyer, d'où on peut rebondir pour remonter jusqu'à la surface, je pense.
Joie, c'est un des mots-clés, donc.
Oui, depuis toujours. C'est la joie qui me sauve, qui nous sauvera, je pense.
Je vous ai présenté comme poète, mais en fait, est-ce que vous n'auriez pas dû être journaliste ?
Oui. Alors, en effet, j'ai fait des études de journalisme au Maroc, à l'ISIC.
L'Institut supérieur de l'information et de la communication de
Exactement.
Rabat.
Exactement, vous êtes bien informée, Yasmine Chouaki. Alors, j'ai fait des études de journalisme parce que je voulais écrire à la base. Donc, j'ai intégré cette école en pensant que j'allais apprendre à écrire. Mais j'ai appris à écrire de manière technique. Donc voilà, vous connaissez le journalisme, est une écriture particulière où il faut informer d'abord. Alors que mon cœur est beaucoup plus proche de la fiction, je pense. Et la poésie et la fiction m'ont très rapidement happée vers elle.
Et à l'écriture qui vous attendait au coin du bois, mais ce choix de devenir journaliste, est-ce que c'était un choix aussi peut-être politique ? Dans quelle rubrique, idéalement, vous auriez voulu travailler ?
Alors, j'ai travaillé en tant que journaliste quelques années, juste après mes études. J'écrivais, je faisais de l'actu, de société, politique aussi, justement. Mm-hmm. Mais justement, je trouve qu'on parle mieux de politique en poésie ou dans le roman qu'en tant que journaliste. On est beaucoup trop contraint quand on écrit pour une publication en particulier, alors que dans l'espace du livre, on a beaucoup plus de marge de manœuvre.
Donc vous aviez ce rêve de journalisme et en fait d'écriture, mais dans une première vie, vous avez exposé en tant que photographe. Et parmi votre série No Man's Land, qui a été exposée un peu partout dans le monde, à Marrakech en tout cas et à Lille pour la France, il y a une photo qui m'a frappée, où on voit une femme nue, couchée de dos. C'est un dos sur lequel sont gravés des noms et pas n'importe lesquels. Il y a papa, maman, mon voisin d'en bas, Tariq Ramadan, frère Abdelkabir et Marine.
Alors c'est une série que j'ai réalisée en interrogeant des femmes sur qui sont les personnes, les institutions, les pratiques, les partis politiques, etc. qui les oppressent dans leur corps d'une manière ou d'une autre. Donc on a dressé une liste en amont. En fait, on a découpé déjà leur corps dans une manière de cartographie un peu arbitraire et on a inscrit ces noms sur leur corps. Et ensuite, j'ai fait les photos.
Donc, ce sont des femmes marocaines, en l'occurrence ?
D'un peu partout. Il y a des marocaines, des françaises. Il y a aussi une congolaise.
Une congolaise. Donc, c'est un travail déjà politique, en fait. Vous êtes déjà sur le terrain politique.
Je suis toujours à la lisière de l'intime et du politique. Je suis entre les deux, forcément, parce qu'ils sont absolument liés pour moi. C'est pour ça aussi que je me suis retrouvée dans cette collection littérature intérieure chez Bayard, qui aussi essaye de démontrer qu'est-ce qui régit nos intimes et en fait un objet politique et influence le politique et comment le politique aussi interagit avec nos intimités.
Bayard, donc, qui publie votre premier roman, Rim Batal. J'ai feuilleté l'un de vos recueils paru au Castor Astral, qui s'appelle Les Quatrains de LOL Inclusive. Et depuis, on vous présente comme ça, comme une poétesse inclusive. Ça veut dire quoi ?
Alors, une poétesse inclusive, c'est une poétesse qui inclut tout le monde et qui accueille tout le monde dans ses textes. Tous les corps, toutes les identités, qui est à l'intersection de plusieurs inspirations culturelles, identitaires, et qui essaie de les restituer. Et puis, parce qu'aussi, ce texte-là se situe autour, se passe autour d'une piscine, qui est une sorte de bain dans lequel plein de corps se mélangent, et on s'en rend pas compte. Et donc, on est lié par l'eau, avec plein d'inconnus, quand on se retrouve dans un club de vacances, en fait, quand on partage cette piscine-là, on se touche finalement comme si on se baignait toutes et tous dans un même liquide amniotique. Et c'est ça qui a été le point de départ de ce recueil-là.
Alors, vous êtes non seulement poétesse, mais vous êtes aussi une performeuse. Ah oui, une performeuse presque rock'n'roll. Hein. La preuve du côté de la Maison de la Poésie à Paris, c'était l'an dernier. Il faut imaginer un guitariste, on a le guitariste. Il faut imaginer un batteur, on a le batteur. Et pour vous, un micro posé sur un tapis pour juste cet extrait de Pump Girl.
Voici la nuit venue. Pas de loup, pas de chat dans la nuit venue. Noire la nuit, soirée au loin. La faim au ventre, faim de tout. Le froid autour. Le corps appelle de ses voeux un autre corps. Espère comme esperar, attendre. Sans rien attendre, espère accueillir, colmate ses brèches en attendant avec les moyens du bord. Une pomme sous le coude, je la prends dans ma main et l'approche de ma bouche quand... On n'a jamais réussi à faire du feu avec une pomme, mais je lui ai tendu celle que j'avais dans la main quand il m'a demandé du feu. Une pomme verte, un peu rouge, pas la pomme d'Ève, pas celle d'Adam. Une pomme qui tombe par la gorge vers l'estomac, fait sa route dans la nuit noire. Garde-la. Garde-la, m'a-t-il dit. J'aime te voir manger des pommes. Et la pomme n'avait plus un goût de pomme, elle avait le goût d'une étincelle, du feu qui prend hors de l'âtre.
Crépitement. La poésie n'est pas ennemie de la narration hein, chez vous. C'est un extrait de Pump Girl, texte qui a été édité en France mais également au Maroc, Rim Batal. Donc, si je comprends bien, au commencement de ce texte était... La pomme.
Toujours, la pomme.
La fameuse.
Exactement, qui figure dans pas mal de mythes à travers le monde. Mais ici, dans ce texte-là, c'est une vraie pomme, c'est le fruit. Ce n'est ni celle d'Ève ni celle d'Adam.
Vous êtes une taquineuse.
Ah, j'adore taquiner les mythes et les mythologies, les fictions, les vérités.
Il y a déjà de la narration, hein, c'est très clair. Oui. On relève cette phrase notamment, le corps appelle de ses voeux un autre corps et on comprend très vite que le grand sujet, notamment de ce texte, mais ça parcourt quand même votre écriture, c'est la question du désir. C'est un sacré sujet ce désir quand on sait, je le rappelle, que vous êtes né sur une terre où le désir est un vrai sujet transgressif.
C'est un vrai sujet transgressif dans l'espace public. Après, dans les intimités, c'est autre chose en fait. En ayant grandi au Maroc, je n'ai jamais vu un peuple qui parle aussi librement de désir, du corps, de rencontres. Quand j'étais étudiante justement à l'ISIC, j'étais à l'internat. Et donc je partageais ma chambre avec d'autres personnes. Et on avait des discussions, mais vraiment impressionnantes de liberté, des manières vraiment très très imagées. Est très différente de parler de désir justement et qui a aussi enrichi mon écriture.
Oui, mais l'écriture est un espace public là aussi. Est-ce que justement cette question de la transgression sur le corps est à l'origine de ce goût pour l'écriture ?
En fait, c'est un peu les deux, l'écriture. C'est à la fois l'espace public et l'espace intime parce que c'est l'espace public parce que ce qu'on lit, quelqu'un d'autre l'a écrit déjà, c'est diffusé, c'est accessible à plein d'autres personnes. Mais en même temps, on le lit seul, dans l'intimité de sa chambre, dans sa petite bulle. Et donc, on a cette impression de moments privilégiés, privés, mais en même temps qu'on partage avec d'autres, et je trouve ça assez splendide.
Mais en même temps, il faut la validation de voix décisionnaires, les éditeurs, et puis en même temps, comme vous dites, c'est drôle, ce en même temps, il y a des yeux familiaux qui vont se poser sur ces textes transgressifs.
Alors oui, il y a la validation de la maison d'édition, mais il s'agit plus d'une rencontre, je pense. Encore une fois, je parle beaucoup de rencontres, mais parce que je pense qu'on n'est pas validé, on a juste fait la bonne rencontre quand on arrive à trouver maison.
Est-ce que selon vous, la poésie est un contre-pouvoir ?
Alors tout art est un contre-pouvoir, je pense. Ça dépend de la manière avec laquelle on l'exerce, des libertés que l'on s'accorde. Je pense qu'il y a énormément d'auteuristes et d'artistes qui s'auto-censurent, à tort ou à raison. Ça dépend aussi des contextes dans lesquels on évolue. Je pense qu'on ne peut pas écrire les mêmes choses sous un régime dictatorial que dans une démocratie. Voilà, mais c'est toujours un contre-pouvoir, je pense.
Comment on dit déjà, coup de foudre ? Satan ! C'est drôle, hein ? Mais de toute façon, à chaque fois que je cherche un mot pour dire quelque chose du répertoire de l'amour en arabe, je galère à trouver. Pas que... Je crois que c'est pas trop dire les amours. L'arabe classique, je pense qu'il y a des trucs qui m'échappent, mais peut-être les gens, j'ai pas l'impression qu'il y ait des mots doux pour le désir. J'ai l'impression que c'est forcément vulgaire. Bon. Je dis rien, j'ai rien contre le vulgaire, mais j'ai l'impression que c'est forcément pas mal des gros mots méchants, mais des mots gros. Ouais, en fait, le seul truc que tu dis, blablabla, de quelqu'un qui te plaît, c'est égyptienne. C'est ça, c'est comme ça que je... Ouais, je dirais égyptienne. C'est pas très lourd, hein, et c'est pas très engageant. Ouais, vu comment tu me regardes, ça marcherait pas trop, quoi.
Toujours extrait de ce Pomme Girl sur RFI et dans votre ensemble majeur, Imbatal, les mots pour le dire, alors en arabe ou en français ? Parce que la question de la liberté, elle se pose aussi à travers le choix de la langue.
Évidemment, alors je pense qu'on est plus libre parfois dans une langue que dans une autre. Enfin, à titre personnel, je me sens beaucoup plus libre d'écrire certaines choses en français, mais je me sens beaucoup plus libre dans l'humour et les plaisanteries que je fais en marocain.
Alors comment concilier tout ça ?
Eh bien, en écrivant en français, mais en construisant sa pensée en marocain. Je ne sais pas si c'est
exemple.
C'est clair.
Est-ce que vous auriez un exemple sous les yeux ? Parce que vous avez beaucoup de choses, hein, des carnets,
oui,
des livres.
J'ai plein de choses devant moi. Je pense qu'on peut le retrouver dans mon roman, dans les plaisanteries que font parfois les personnages, dans la fougue, dans cet instinct de survie qui pousse le personnage à partir de chez lui et aller chercher refuge ailleurs. Tout en gardant une forme de légèreté malgré la blessure, malgré l'événement traumatique qu'il est en train de vivre. Elle arrive à trouver toujours un bon mot, un peu de rôle pour se faire rire elle-même en tout cas et essayer de remonter à sa surface.
Alors en même temps, je me disais que barboter comme vous l'avez fait dans la langue de Molière, dans un contexte arabo-musulman, où effectivement il y a une prise directe avec un certain humour. Est-ce que justement ça ne commence pas là, la poésie ?
Je ne sais pas si elle commence quelque part, mais en tout cas, elle nous attrape. Et quand elle nous attrape, elle ne nous lâche plus. J'ai rencontré pas mal de personnes qui n'en écrivaient pas. Et à partir du moment où elles s'y sont essayées, c'est quelque chose qui ne nous quitte plus du tout.
Est-ce qu'il y a eu un poète en français ou en arabe qui vous a chopé ?
Ah oui.
Alors immédiatement.
Déjà, bien sûr. Déjà, moi j'ai découvert la poésie parce que mes parents, ils disaient beaucoup de proverbes, mais aussi des vers de poésie arabe classique, pré-islamique, contemporaine, de la poésie perse aussi, et chantait beaucoup, il chantait Om Kalthoum, etc., qui chantent elles-mêmes des poètes, soit classiques, soit qui ont écrit spécialement pour elles. Et ensuite, j'ai découvert la poésie française, en tout cas francophone au départ, avec Prévert, Paul Éluard...
C'est une drôle de circulation en même temps,
hein,
de rentrer par les proverbes en arabe et de s'y coller après avoir lu Paul Éluard.
C'est un peu le parcours de pas mal de personnes qui viennent de pays qui ont été soit colonisés par la France, soit sous protectorat comme le Maroc. Je pense qu'on a un rapport à la langue française qui est très particulier. On baigne dedans, on a à la fois une sorte de rejet et d'amour pour cette langue qui, pareil, qui ne nous lâche pas à partir du moment où elle s'insinue en nous.
Le poème, son écriture est ici pour remédier à l'impuissance et l'orage annoncé par les hirondelles qui puisent l'eau chlorée de la piscine pour s'hydrater. L'orage claque des dents, cherche le courage d'éclater. Voici un poème sur le poème. Suis-je enfin poète ? Ça, c'est le sixième quatrain de All Inclusive. J'ai un peu craqué pour ce
je
recueil.
Je vois ça. Vous l'avez beaucoup aimé, voilà. On dirait.
En tout cas, il n'y a pas que les hirondelles dans votre vie. Désormais, il y a aussi le roman.
M.
M comme Marc Page.
Elle te demande d'aller chez un gynéco pour vérifier si tu es encore vierge. Demander un certificat de virginité. Sans quoi, tu ne peux pas retourner chez toi. Elle a dit, je la cite ma chérie, ce n'est pas moi qui le dis. Elle a dit, elle revient à la maison avec le certificat, sinon il y aura mort d'homme. Qu'il ne s'agisse que d'une expression, ne me frôla pas même l'esprit. Il y aura mort d'homme, ou plus précisément, une vie va tomber. Pour une traduction plus fidèle depuis l'arabe dialectal marocain. J'avais beau savoir qu'aucune vie ne tomberait, du moins pas au sens propre, aucune mort dans l'histoire, mais je prenais ça au sérieux. Leurs expressions à la con, c'était du seum nucléaire postillonné allègrement sur ma petite nature, ancrée dans la langue et le premier degré.
Et nous sommes page 32 dans votre premier roman qui paraît chez Bayard, Je me regarderai dans les yeux, Rim Battal. Faites-nous la présentation, le procès verbal de cette scène, on est à quel moment de l'histoire ?
Alors c'est le moment où le personnage principal, qui est une jeune fille de 17 ans, est allé se réfugier chez sa tante pour se protéger de la violence de sa mère, violence qui a été déclenchée par une malheureuse cigarette fumée à la fenêtre de sa chambre. Et donc là, sa tante, qui était censée la protéger, lui énonce les conditions à son retour chez ses parents.
Alors c'est une adolescente internationale, on dirait, qui est abonnée à Jeune et Jolie, qui écoute 50 Cent et qui commence, pourrait-on dire, à chiner un mari en fonction de quels critères ?
De critères d'un cahier des charges ouais. Qu'on soumet aux jeunes filles, malheureusement. Il faut que ce soit un mari d'une bonne famille, qu'il ait fait des études. Enfin, voilà, c'est un bon gendre, gentil, respectable sous tout rapport, qui pourra être un bon papa plus tard.
Bon, et le drame de cette jeune fille de 17 ans, c'est cette fameuse cigarette qu'elle fume un jour. Sa mère la surprend. Elle est dans la transgression absolument ultime. Ça va déclencher... Il n'y a même pas de mots en français, il y en a peut-être plus en arabe. Une fureur maternelle inouïe, incontrôlable. Elle a cette phrase, il y aura mort d'homme. Et ça, c'est une expression arabe qui ne connaît peut-être presque pas le figuré.
Oui, c'est en marocain, en fait, on dit « oula terroh ». Ou alors une âme va tomber. Et en fait, oui, c'est quelque chose qu'on utilise assez régulièrement en arabe. C'est assez fréquent d'utiliser cette phrase, cette sentence. Mais en fait, elle n'a... Enfin, il n'y a aucune mort qui s'ensuit généralement, sinon il y aurait vraiment la moitié de la population dans les prisons. C'est une menace inouïe. Mais en fait, c'est assez marrant parce que le darija est paradoxalement...
Donc l'arabe dialectal.
C'est ça, l'arabe dialectal marocain. Le darija marocain est très extrême et dans l'humour et dans la menace.
La haine.
Voilà, tous les sentiments sont exacerbés au quotidien. On vit tout à 1000%. On est un peuple passionné. Mais moi, j'étais petite, ça me faisait peur. Et donc, mon personnage aussi. C'est une sorte d'adolescente sans histoire, vraiment dans une vie absolument banale et qui se retrouve confrontée à une injonction très, très violente qui est celle de fournir un certificat de virginité pour une cigarette fumée, ce qui est absolument absurde.
Alors, est-ce que c'est un précepte du prophète, ça, cette question de la virginité ?
Alors, dans les sociétés d'aujourd'hui et dans la société marocaine, la virginité, c'est surtout les filles, les jeunes filles et les femmes qui doivent obéir à cette injonction. Mais à la base, dans l'islam, ça concerne les deux, femmes comme hommes. Et il y a pas mal de préceptes comme ça qui s'adressent aux deux sexes, aux deux genres, en fait, de manière égale. Il y a une forme d'égalité dans l'islam, contrairement à ce qu'on imagine. Mm-hmm. Et si une femme et un homme, si on les attrape en train de avoir un rapport sexuel hors mariage, les deux sont concernés de la même manière et les deux subissent les mêmes conséquences, en fait, dans l'islam à la base. Mais sauf que dans nos sociétés, tout est un peu déformé par le patriarcat à l'avantage des hommes et à la défaveur des femmes. Et c'est aujourd'hui, c'est toujours les femmes qui trinquent, c'est les femmes qui doivent fournir des certificats de virginité. Les hommes sont au contraire poussés à éprouver leur vigueur, leur virilité. Plus on a de conquêtes, plus on est respecté. En tout cas, c'est toléré.
À l'arrivée, donc, cette adolescente, juste pour une cigarette, est accusée de trahir la nation. On est dans une tragédie, c'est une véritable tragédie. Et la fureur maternelle que vous restituez magnifiquement, Rim Battal, elle dit quoi de la société marocaine d'une part et des femmes en particulier ?
Alors c'est une fureur, justement, c'est une tragédie, c'est un livre au final, en fait. Donc tout est exacerbé, tous les curseurs sont poussés au maximum. En revanche, dans la société marocaine, la question de la violence envers les enfants existe. Donner une bonne correction, c'est quelque chose qui est assez courant. Donc cette mère, dans ce contexte-là, c'était une mère à peu près comme les autres au final. Mais j'avais vraiment envie de mettre ça dans un livre afin de pouvoir renvoyer ça en miroir à tous les parents, en fait, qui exercent cette violence envers leurs enfants pour qu'ils puissent justement en comprendre les conséquences sur la durée, que ça peut être si douloureux psychologiquement.
Mais là où vous êtes peut-être vraiment politique, Rim Battal, c'est que vous faites le lien entre le pouvoir que les femmes, dans une société maghrébine on va dire, que les femmes ont bien peu à l'extérieur et qu'elles rééquilibrent d'une certaine manière à l'intérieur.
Je ne pense pas que ce soit vraiment intrinsèque aux sociétés maghrébines. Je pense, pour moi, il s'agit de sociétés patriarcale. Et ce que j'essaie de pointer, c'est le ruissellement de la violence. Ce sont des violences que les femmes subissent dans la rue, de la part de leur mari, des pères, etc., qu'elles reproduisent sur les enfants, parce que c'est un peu leur lieu de pouvoir à elles. Et donc, assez naturellement, malheureusement, ou même par une forme d'automatisme, elles se retrouvent à faire ruisseler cette violence-là sur les enfants.
En tout cas, votre roman, Je me regarderai dans les yeux, le développe à merveille. La mentalité parentale n'est pas exactement adaptée, on va dire, aux errements de l'adolescence. Au menu de cette fameuse adolescente, dissimulation et mensonge.
C'est d'ailleurs mon père qui m'a appris à mentir, même à lui mentir à lui. Il m'a enseigné son art et donné ses armes que je retournais régulièrement contre lui sans qu'il s'en offusque. Il appelait ça la diplomatie. On ne dit pas « Je vais à une boum, papa ». Jamais je vais te laisser aller à une boum. T'as cru quoi ? Que je m'appelais Michel ou Jean-Francis ? Me disait-il par exemple. On dit « Je suis invité à réviser chez une amie et sa maman sera là pour nous faire du thé à la menthe. » Et là, je te dépose sans problème. Soit je reviens te chercher en voiture, soit tu vas en mobylette et tu rentres à l'heure que tu m'auras dite. Ça donne plus confiance, tu comprends ? I got it, papa.
Magnifique scène, magnifique papa aussi. Où oui. L'hypocrisie instituée en code de conduite par l'autorité elle-même. Rim Battal.
Oui, tout à fait. En fait, c'est parce que ce que j'essaye aussi de démontrer dans ce texte, dans ce roman, c'est que chaque personne dans une société contraignante qui a des règles morales très strictes compose en fait et développe ses petites stratégies afin d'aménager des petites poches de liberté. Et là, le père qui en est conscient et qui fait confiance à sa fille en fait, il veut qu'elle puisse justement vivre une certaine liberté, qu'elle puisse vivre son adolescence dans un cadre qu'il a quand même posé. Et donc, il lui apprend un peu comment composer elle aussi. Il lui passe ses petits tuyaux, ses petites astuces.
Sur une malheureuse affaire du Club Gate, je vous cite, la narration se transforme en fugue, d'abord chez une copine, et puis ensuite on la voit prendre le train pour Casablanca en écoutant Beth Gibbons. Elle rencontre une certaine Hanan dans le train qui lui raconte sa propre grossesse d'adolescente, qu'est devenu le bébé. C'est une question pour toutes les grossesses d'adolescentes. La narratrice fournit ce certificat de virginité, finalement, mais sans son consentement, sans délicatesse de la part de la gynécologue, dans ce royaume de M6 en plein 21e siècle, du haut de ses 17 ans, elle dit, je cite, avoir subi un viol institutionnel commandité par sa propre mère. Alors ce vent de révolte qui souffle à travers votre narratrice, votre héroïne, Rim Battal, est-elle une exception dans cette nouvelle génération ?
Alors, je ne pense pas. Je pense qu'il y a énormément de jeunes filles, d'adolescentes qui sont très résistantes au Maroc, en tout cas. Je vais parler de ce que je connais. Et j'en ai rencontré beaucoup. On a partagé énormément de choses avec des copines qui vivaient parfois des choses autrement plus douloureuses que ce personnage-là, en fait, et qui arrivait à les surmonter avec une force incroyable. Mais c'est aussi parce qu'on a été une génération qui a été très poussée par les parents à faire des études. Donc, ce qui constitue en soi une sorte de une porte de sortie, une voie vers l'autonomie. Et aujourd'hui, on le voit, toutes les femmes, les jeunes femmes de mon âge, un peu plus âgées, un peu plus jeunes, ont un travail, un salaire, voyage, ont le pouvoir et négocient. Donc, elles ont les moyens de négocier une place un peu plus digne dans la société, dans le couple, dans la famille.
La morale, si jamais il y en a une, je ne sais pas si on est en copain avec ce mot d'ailleurs, mais la morale de cette affaire, est-ce qu'elle serait à chercher dans le titre de votre roman « Je me regarderai dans les yeux » ?
Exactement, c'est ça. Il faut se regarder dans les yeux, il faut savoir se trouver, mais il faut se chercher beaucoup. Mais quand on se trouve, c'est à soi et uniquement à soi qu'on doit pouvoir rendre des comptes. Et plutôt que morale, trouver et composer sa propre éthique.
En exergue de ce premier roman, vous avez mis un certain Georges Bataille et un certain Blaise Cendrars. Qu'est-ce que ça dit, ça, de votre écriture romanesque ?
Alors, ils font partie des auteurs, autrices qui sont dans mes fondations. Et là, je parle justement dans la citation de Georges Bataille. J'essaie de expliquer à quel point il est nécessaire de vivre et de se frotter, de se confronter à la vie pour pouvoir écrire des choses qui soient complexes. Et ensuite, je cite Cendrars qui dit « Qu'importe que j'ai pris ce train pourvu que le lecteur l'ait pris ». Parce qu'il y a toujours cette dualité vérité-mensonge dans la fiction, dans le roman. Et là, dans ce roman-là, dont je me regarderai dans les yeux, je ne rends pas la tâche facile à mes lectrices, puisque le personnage principal, qui est la narratrice, a le même nom que l'autrice.
Vous avez vu, j'ai pris soin de ne pas le souligner jusque-là.
Merci, vraiment, vous êtes très très généreux de votre part.
Non, c'est une respiration, ça s'appelle de la fiction. Hein, après.
Tout à fait. Et puis voilà, on se détache de la vérité vraie, parce que qu'est-ce que la vérité vraie à la base ? Et puis c'est un roman, c'est pas un documentaire. Donc qu'importe si les faits sont véridiques, l'essentiel c'est tout le cheminement que ça nous fait prendre, c'est l'analyse qu'il y a derrière, c'est la manière avec laquelle j'ai essayé d'expliciter tous les mécanismes qui permettent à ce patriarcat de continuer à nous maintenir la tête sous l'eau en tant que femme, homme et enfant en fait.
Le goût de la liberté, donc fiché au corps, clairement, pour vos rimes. Le goût de la punchline, hein, aussi, d'une certaine manière, autrement fichu dans ce roman. Mais celle-ci, par exemple, à propos de ces femmes qui se raccrochent à Dieu comme à une bouée, je vous cite, « Une de ces autoproclamées saintes, simplement parce qu'elles n'avaient jamais éprouvé d'orgasme. » Est-ce que les femmes de votre famille vous ont lu ?
Alors, je ne sais pas, mais j'ai des éléments de réponse. J'ai une tante qui a mon livre posé sur sa table de chevet.
C'est un bon début.
Oui. Et puis, une fois, j'ai vu ma mère ouvrir un de mes livres, donc L'eau du bain. Et je me souviens, je lui ai arraché des mains en disant « Non, ne lis pas ça !»
Ah, voyez, oui. La censure est de tous les côtés.
Non, parce qu'en fait, quand on fait partie de la famille d'un auteur ou d'une autrice, c'est très difficile, c'est encore plus difficile que pour le reste du monde, de se détacher en fait de la fiction et d'avoir la distance qu'il faut pour ne pas se voir, en fait. Même, on peut élargir aussi à toutes les personnes, par exemple, qui sont sorties avec un auteur, quand on lit ses textes. Même quand ce n'est pas le cas, on va forcément trouver des petites choses qui viennent de nous, des tics de langage, descriptions des traits physiques, des gestes, des comportements, parfois des mots, etc. Mais parce qu'on écrit avec quoi ? On écrit avec la vie, on a cette galerie de personnages, de voix qui nous habitent et qui nous traversent, et puis qu'on met dans nos livres forcément. Mais ce ne sont pas les vraies personnes.
La suite en sol majeur va se poursuivre au pays du tagine à l'artichaut, c'est votre plat préféré, oui. Et à deux versets de la nuit du doute.
زاير مثلا انحزنا لصديقة الزاير لأسباب متعددة. أولا لأنها دون معترف بها، ثانيا لأنها طلبت منا المعروف، ثالثا
pouvez-vous me décrire la maison de votre enfance?
Rim Batal.
Alors la maison de mon enfance, c'est une grande maison, c'est un logement de fonctionnaires d'ailleurs, dans une toute petite ville, enfin, la campagne. Il y avait un jardin, des vaches, un chien qui s'appelait Rocky, du lierre, du laurier rose. Et parfois on allait chercher du lait dans une coopérative laitière la nuit avec mon père. Je me souviens de ces petites balades avec la torche, la nuit et le chien qui venait avec nous à travers champs.
Alors on a entendu évidemment la prière parce qu'il n'y a pas rien de hasardeux, on va dire, dans votre bande-son en sol majeur, mais on a entendu aussi la voix de Hassan II. Je me demandais si la famille avait eu à souffrir de son règne.
Alors, je pense que le règne de Hassan II a marqué absolument tous les Marocains et les Marocaines. Mes parents faisaient partie d'une famille vraiment sans histoire. Ils venaient de familles très modestes. Ils ont fait des études, ils ont accédé à la classe supérieure. Et ils étaient très, très, très partisans du « vivons cachés, vivons heureux ». qu'ils ont essayé de me transmettre, mais j'avais une trop grande gueule, visiblement.
À la maternelle, elle a été choisie pour chanter une jolie chanson égyptienne devant les parents d'élèves et quelques éléments des autorités. Mais sur scène, elle avait refusé, tout le monde l'applaudissait, les maîtresses aussi l'encourageaient, croyant que c'était le trac, mais elle ne voulait pas. Quand je lui ai dit pourquoi elle a fait tout ça, elle a dit qu'elle voulait être en robe de princesse et non pas en jean et en pull de laine. Alors que c'était au mois de décembre, il faisait très très froid. Rim était toujours têtue, mais douce et jolie.
Têtue, douce et jolie, dit maman. On imagine.
Et qui tient ses robes de princesse. Voilà. Ça a continué. Je réfléchis vachement à ma mise avant de monter sur scène.
On imagine qu'avec une telle plume aujourd'hui et cette liberté intérieure que l'on sent, on imagine que vous avez été éduquée par une femme forte. Quelle femme a été votre mère, Nora ?
Alors, c'est une femme très forte, qui a beaucoup de caractère, qui adore raconter des histoires, justement. Je pense que ça a été une belle école d'écriture pour moi. Elle a le sens de la punchline aussi, qu'elle m'a transmis. Elle a beaucoup d'humour. On rigole beaucoup toutes les deux. On a à peu près le même rythme. On est très paresseuses toutes les deux. Et puis soudain, on va se lever et puis ne pas rentrer pendant 3 jours. Et on va faire 15 000 activités différentes.
Pas extrême, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment, c'est soit l'un, soit l'autre.
Pourtant, cette jeune fille de 17 ans, décrite dans « Je me regarderai dans les yeux », c'est vous. Je me demandais si ce certificat de virginité qu'on vous a exigé un beau jour est devenu finalement le passeport pour vous, pour prendre vos distances par rapport à cette société ou ce patriarcat notamment.
Oui, alors je pense oui et non. Déjà, c'est moi et c'est pas moi, cette rime-là. Ensuite, je pense que chaque personne dans son cheminement de vie vit une collision. Une grande collision, une collision majeure qui nous transforme et qui va être vecteur de questionnement, etc. Et grâce auquel on commence sa déconstruction de ce qu'on a acquis, des informations, culture, etc. qu'on a essayé de forcer en nous pour se construire de manière plus fidèle à soi, à ce qu'on est censé être.
Heureusement qu'il y a eu ce certificat de virginité alors.
Je dirais pas heureusement, mais en tout cas, ça a été ma collision à moi, je
mais
pense.
De la manière dont vous l'avez résolue, on peut dire aujourd'hui heureusement.
Bah, j'espère que les autres personnes réussissent à résoudre aussi leur point de collision aussi. Je leur souhaite en tout cas.
Mais c'est intéressant de nous glisser ça dans la poche.
Après, je pense que donc, ce personnage-là, en tout cas dont je me regarderai dans les yeux, dont on m'a dit hier d'ailleurs qu'il était très fort et à aucun moment ne se résigne. Et c'est vrai, mais je pense que le personnage reporte le trauma, reporte l'effondrement. Et ça sera le sujet du prochain tome.
Et cabotine en plus. Quelle mère vous pensez être alors, vous, aujourd'hui, à votre tour?
Alors, je pense être... douce, compréhensive. J'essaye vraiment de expliquer le pourquoi de ce que je leur impose parfois, ce que je suis dans l'obligation de leur imposer pour leur propre survie, hein, parce que les enfants, si on les laisse faire, ils se nourriraient de bonbons et de capricornes.
D'abord mère ou d'abord poète?
Les deux, je pense. Alors d'abord poète, parce que chronologiquement, j'ai écrit avant d'être maman. Mais c'est quelque chose qui a toujours été en moi. J'ai toujours voulu avoir des enfants.
En tout cas, c'est les deux, peut-être la mère et la poétesse.
Et la putain aussi.
Et la putain, qui ont écrit justement ce vers qui dit « J'ai ovulé dans ma culotte, en voici un autre qui ne connaîtra pas l'enfance, fort heureusement. » Allez, on passe
c'est
une
drôle.
Tête du côté de votre couffin culturel. C'est un petit peu comme dans votre chambre. Il y a des musiques, des films et des poèmes qui ont, je le redis, une force politique.
Je vais vous dire ce qu'ils vous auraient dit, Léon Gontran-Damas, par rapport à ce que vous nous dites. Et ça, c'est dans Black Label. Lorsqu'il dit « nous les gueux, nous les peux, nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous ? Qu'attendons-nous ? » pour faire les fous, pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite. Si nous n'accordons pas l'égalité des droits, si nous ne reconnaissons pas les libertés, nous leur disons, qu'attendez-vous pour faire les fous sur cette vie stupide et bête qui vous est faite?
Et voilà, monsieur Mariton, vous avez permis la rencontre de la justice et de la poésie.
So listen to me when I say that love isn't something we invented. It's observable, powerful.
Il y a forcément un sens. De toutes les choses que nous percevons, seul l'amour transcende les dimensions temporelles et spatiales. Peut-être bien qu'on devrait accepter en confiance ce qu'on ne saisit pas encore.
Rime Battle, qu'elle n'a toujours pas rangé sa chambre, donc. Hein.
C'est clair que c'est un sacré bazar, là. Mais il y a une logique dans
tous ces sons, là.
Tous ces choix, oui. Mm-hmm. Parce que je pense que l'amour, n'est pas aussi irrationnel qu'on ne le pense. Et je pense qu'on devrait exercer la politique peut-être avec plus d'amour. Et justement, Christiane Taubira est une des personnes qui le font assez naturellement. On sent qu'elle a été ministre avec amour, qu'elle a défendu le mariage pour tous avec beaucoup d'amour. Et c'est ce qui a produit cette loi, une des lois les plus égalitaires qu'on connaît aujourd'hui.
Donc l'amour aussi avec Farid Elatrache et avec ce monologue du film Interstellar. Mmh. Mais Thibaut Baduel, qui vous écoute très attentivement, se demandait pourquoi le mot catin, juste avant de rentrer dans votre chambre intérieure là.
Alors parce que dans mon travail, que ce soit à travers la poésie, les photographies, les installations que j'ai faites et le roman, il y a toujours ce lien. En fait, j'essaye de réassocier les figures de la mère et de la putain, qui sont les figures de la Vierge et de la Vénus, parce que pour moi, elles ont été dissociées à tort. Et cette dissociation est la cause d'énormément d'injonctions contradictoires qui nous font souffrir en tant que femmes. On peut être mère et putain à la fois, et il faut l'être en fait.
T'as compris ? En tout cas, quand je regarde ce coup fin culturel, Rim Battal, bon, il est très réducteur, hein, on est bien d'accord, mais ça pose une question, est-ce que vous considérez avoir une frange double culture ?
Oui, tout à fait. Alors, déjà, j'aimerais juste dédier cette chanson Nora à ma maman qui s'appelle Nora.
C'est fait.
Qui adore cette chanson. Oui, alors en fait, j'ai grandi avec le français. Et le français est dans mes fondations, même si je suis née au Maroc. J'y ai grandi, j'ai fait mes études supérieures là-bas. Je suis arrivée en France adulte. Ça fait une dizaine d'années que je vis à Paris. Mais les deux cultures se mélangent tellement en moi que parfois, je ne sais pas si je parle français ou arabe. Il m'arrive de parler en français et soudain, je me mets à parler en arabe et la personne me dit « mais je ne comprends pas ce que tu dis, tu me parles arabe là ». Ou l'inverse aussi.
Donc parfois, on n'est plus dans la double culture, on est sur une troisième voie.
Oui, exactement. C'est vraiment les deux sont tellement liés qu'ils sont indiscernables en moi. En fait, j'ai vraiment les deux cultures, j'ai les deux références culturelles que je pense maîtriser assez bien. Et j'espère les restituer aussi assez bien comme une troisième esthétique dans ma manière d'écrire.
Merci Rim Battal, choukran.
Merci. Choukran, merci beaucoup pour l'invitation.
Au générique de cet En sol majeur qui vous était consacré, on a donc un roman paru chez Bayard, « Je me regarderai dans les yeux ». Une pensée libre de catin, hein, on a le mode d'emploi maintenant, en 2, 3, 4.
Il s'est retourné.
Premier quatrain.
Et le regard qu'il a posé sur moi, ce regard, j'ai su direct qu'on allait danser.
Deuxième quatrain.
J'avais beau savoir qu'aucune vie ne tomberait, du moins pas au sens propre, aucune mort dans l'histoire. Mais je prenais ça au sérieux. Leurs expressions à la con, c'était du seum nucléaire postillonné allègrement sur ma petite nature, ancré dans la langue et le premier degré.
Troisième quatrain.
Elle a dit qu'elle voulait être en robe de princesse et non pas en jean et en pull de laine. Alors que c'était au mois de décembre, il faisait très très froid. Rim était toujours têtue, mais douce et jolie.
Le tout est à retrouver en podcast sur Pure Radio. Thibaut Baduel, Yasmine Chouaki, on vous retrouve dimanche prochain pour d'autres aventures en sol majeur. Dans un instant, votre journal suivi de Mondial Sport.